suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci d'être au rendez-vous, rendez-vous du Club de la Presse sur votre radio. Nous sommes au jeudi 25 avril 2024 et il sont 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitogbe Kokout Omega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci à vous tous, alors qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière, à Anéro, Radio La Paix, à Takpame, Central FM, à Sokodé, Radio Daou, La Bassa, Sama FM, à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie, à Dapan. Vous avez ce privilège également de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et également le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, ils se sont déjà installés. Michel Yaou Tsadza, bonjour.
Bonjour.
Il semble que votre micro n'est pas ouvert. Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà.
Pascal, bonjour, confrère. Bonjour, Canal FM.
D'accord. J'espère que tu as bien passé la semaine.
Oh, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va.
C'est l'essentiel. Oui. De la grâce de Dieu nous fait toujours du bien. Alors, Jean Legrand Polérini, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour aux confrères en studio et bonjour à Canal FM et tous ceux qui nous écoutent.
Bien passé la semaine.
Par la grâce de Dieu, ça va.
Et déjà la 5e République, au moins, je pense quand même que tu sens sa grâce aussi.
Oh, est-ce qu'il y a une certaine grâce? On attend de voir, parce que c'est les hommes qui vont animer cette République. On verra de quoi cela sera fait.
D'accord. Ouais. Ambroise Kondo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour les confrères ici présents. Bonjour les Togolais et Togolaises qui nous suivent. Merci.
Et la semaine, ça s'est bien passé?
Oui, on rend grâce à Dieu. Et on se dit que nous sommes dans une période électorale et la campagne va bientôt finir. L'essentiel, c'est qu'on puisse aller à des élections transparentes et équitables. Sans heure.
C'est l'essentiel. C'est très important. Alors, Ambroise, vous savez bien le fait. Je veux bien parler alors de cette question d'environnement. Nous savons que déjà le lundi 22 avril dernier, c'était la journée de la Terre. Journée de la Terre qui a été célébrée autour de la question de l'éradication des sachets plastiques. Et il y a même actuellement une rencontre qui se tient à Canada alors pour cet événement. Alors dites-nous aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu alors de cette journée? Une journée de la Terre, c'est quoi l'enjeu?
Oui. D'abord, le jour de la Terre, des FD, on l'appelle FD en anglais, qu'on appelle aujourd'hui la journée de la Terre, est une journée qui est née aux États-Unis, quelque part là-bas, sur l'instigation ou l'initiative d'un sénateur américain écologiste, dont le nom est Gerald Nixon, qui, après avoir constaté une certaine pollution, De la mer quelque part chez eux là-bas en 1970, 22 avril a créé une émulation, a suscité la colère qui a fait déferler plus de 6 millions de personnes dans la rue en ce temps-là et qui a donc induit les Nations Unies à amener les planétaires, les nations à adhérer à la protection de l'environnement. En fait, la journée là consacre l'idée de protéger ou de sauvegarder les acquis environnementaux. Et donc, on se rappelle en 92, ici en Afrique du Sud précisément, le premier sommet de la Terre a eu lieu en 92 et c'était le sommet le plus médiatisé d'ailleurs. Et on se demande quel est le bilan qu'on peut faire de cette protection de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est un tout. C'est la pollution aussi, comme cela a été à l'origine en 70 avec ce sénateur. L'environnement, c'est aussi les changements climatiques qui sont d'actualité actuellement. Vous allez voir l'état de Dubaï. La ville de Dubaï était tout en eau. La semaine, ça fait 2 semaines.
Et il y a la Chine également.
La Russie, une partie de l'est de la Russie a été complètement envahie. Et maintenant la Chine aussi, deux grandes villes qui sont à peu de 40 millions, voire 60 millions d'habitants, ont été envahis par l'eau. Et donc, ce qui fait que, moi j'ai un ami qui me dit, il n'y a rien qui se passe ici, hein, parce que nous on est presque pratiquement à la côte. Et quand on était à la côte, avec le front intertropical qui balaye la côte ouest africaine, et la manière dont la mer même est consumée par l'érosion côtière, et moindre pluie, vous allez voir une pluie qui devait tomber en un mois se faire en une seule journée. L'Europe occidentale n'est pas épargnée. La France, l'Espagne, vous allez voir toute une région de la France engloutie dans l'eau. Et donc on se dit que ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'action humaine qui a créé tout ça. Et donc cette année, l'accent est mis sur la lutte contre les sacs plastiques. L'accent est mis sur comment répulser, anticiper sur la prolifération des sacs plastiques. Et donc, ce doit être une prise de conscience générale. Les sacs plastiques, pour le rappeler, sont un produit qui vient du polyéthylène avec plusieurs centaines de substances nocives à l'humain et en même temps à la terre, à l'environnement. Vous allez voir dans tous les quartiers où il y a les sacs plastiques, d'abord ça crée de la chaleur, parce que ce qui est sac même est un peu désolant et ça suscite la chaleur. Maintenant ça bouche les caniveaux, ça bouche les sorties d'eau et ça facilite l'inondation dans les quartiers. Et donc cette année il y a un accent qui est particulièrement mis sur la lutte contre les sacs plastiques. C'est ce qui même amène les décideurs mondiaux, les écologistes, les Nations Unies à aller vers un traité. Et ce traité là devait réguler la production et l'importation, la fabrication des sacs plastiques dans le monde. Et nous, on se dit qu'il faut aller à l'interdiction formelle des sacs plastiques. Jusqu'à un certain nombre d'années, on parle de 2040, voire 2060. Vous savez, il y a des pays pétroliers qui résistent à ce traité-là, mais il y a quand même des pays pionniers, comme le Canada, la Finlande et autres pays, le Rwanda aussi, qui militent pour qu'il y ait une restriction sévère contre les sacs plastiques.
Ambroise, une chose est de signer les traités, mais l'autre aussi c'est de respecter ou d'appliquer même d'ailleurs ces traités.
Oui, il y a des traités. Il y a deux formes de traités. Des traités qui sont comme des conventions qui n'ont pas de contraignances, mais il y a aussi des traités qui sont vêtus de contraintes. C'est-à-dire que c'est un traité contraignant. Les gens veulent aller à un traité contraignant. C'est-à-dire qu'on ne va pas, à cause de nos appétits gloutons, à cause de nos intérêts, parce que c'est les intérêts qui sont en jeu. Les pays qui fabriquent le pétrole, puisque les sacs plastiques sont dérivés du pétrole, du brut. Et donc, si ça n'est ainsi, les gens font un manque à gagner énorme. C'est des multimilliards qui sont gagnés à travers ces sacs plastiques-là, ces dérivés, les bouteilles en plastique, tout ce qui est machin lié au pétrole brut. Et donc, en le touchant, on touche aux intérêts des gens. Et donc, en touchant aux intérêts des gens, les gens seront prêts à résister. Donc, il y aura des points de résistance. Mais il va falloir que l'on puisse comprendre que le développement doit passer par une certaine sévérité. Et donc, s'il faut aller à la sévérité, c'est un traité contraignant. Donc, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de cesser la fabrication, l'importation, la production de tout ce qui est sachet plastique. Et on peut commencer par le Togo, parce qu'il y a un décret de 2005, 2011.
Mais qui n'est pas respecté aussi.
Le décret, quand ce décret-là, avant même que le décret ne soit pris, c'est l'Observatoire africain de l'environnement qui a tiré sur la sonnette d'alarme, suivi de tintamarres, de bruits partout, et qui, heureusement, a eu écho auprès des pris un décret le 5 janvier 2011. Et 5 ans qui ont suivi la prise de ce décret, il y a un semblant d'accalmie. Les ministères des Finances, non pas Finances, Environnement et Commerce, sont allés dans les zones industrielles où il y a une huitaine de production industrielle ou d'unités industrielles qui fabriquent les sacs plastiques. On a eu même organisé un forum dans ce pays, à l'endroit de 8 pays, aux Africains, même, y compris le Gabon et le Rwanda, qui ont participé, qui voudra qu'on trouve une alternative crédible. Quelles sont les alternatives crédibles? On a parlé des sacs bio, et aujourd'hui, ces sacs bio, on se dit que ça disparaît 2 ans après, contrairement aux sacs qui sont têtus, dupes de tête, qui font 400 ans et plus dans la nature. Et donc, aujourd'hui, ce décret-là tangue, c'est-à-dire que Le constat est mitigé, le bilan est pratiquement à terre. La preuve, après 5 ans, on est revenu à la case départ, alors que nous courons un danger. Je précise que les sacs plastiques tuent beaucoup de bêtes. Même le chien qui mange un sac plastique qui est confondu à une tête de poisson peut être asphyxié par les sacs plastiques. Les moutons, les chèvres, les bœufs, ils meurent comme ça.
D'accord. Merci
donc,
beaucoup,
Ambroise. Aujourd'hui, le mot d'ordre, aujourd'hui, final, c'est d'arrêter de fabriquer, d'importer, de produire les sacs plastiques.
D'accord, je vous sens très bien dans ce sujet, surtout que c'est un sujet que vous maîtrisez très bien. C'est votre domaine. Et Michel, quand on suit bien Ambroise par rapport à son développement, on comprend que notre maison commune qui est la terre, nous détruisons cette maison.
Oui, il a dit, je pense que c'est l'œuvre humaine qui est à l'origine des changements climatiques, du réchauffement de la Terre et avec toutes les conséquences. Il a parlé de Dubaï qui était sous l'eau, l'eau a emporté des véhicules et tout ça. Là, vous savez que pour ceux qui connaissent Dubaï, c'est une zone où il pleut rarement. Parfois dans l'année, on nous a appris que c'est peut-être 2 ou 3 pluies. C'est pourquoi ils ne consomment même pas de caniveau, il n'y a rien là-bas. C'est des autoroutes comme ça, et puis c'est fini. Donc imaginez-vous, quand il y a une grande pluie, ça veut dire que l'eau, voulant chercher un passage, est obligée d'aller, de ramasser les véhicules sur son passage et tout ce qui va, tout ce qu'elle trouve sur sa voie. C'est pour dire que ce qui, moi, particulièrement me fait mal, c'est que nous, tout le monde sait où est le mal, mais comme nous sommes dans un monde hypocrite, les gens se retrouvent dans des hôtels 5 étoiles, ils dînent bien, ils prennent ils signent des traités, ils signent des conventions, mais juste quand ils prennent leurs avions au retour, bon, il n'y a plus rien, quoi. Chacun pense à son pays, à ses intérêts directs, et le reste, on ne voit rien venir. Vous savez, Ambroise a bien vraiment développé ce sujet. Le mal est là depuis. Et on sait comment ça se passe. Quand vous revenez chez nous, si entre-temps on a pris un arrêté ou bien c'est un décret.
C'est un décret.
Pour interdire l'utilisation des sacs plastiques.
Non, ce n'est pas pour interdire. C'est pour réguler. Pour la distribution, l'importation, la commercialisation. De ces sacs plastiques.
C'est ce qui a été écrit. Donc, on n'a pas interdit l'importation.
C'est maintenant, nous, on réclame l'interdiction.
Donc, dans tous les cas, entre-temps, on faisait la chasse ici au Togo des sacs plastiques. On ne voulait pas des sacs plastiques. Mais ça continue jusqu'à ce jour. Vous savez, même, vous achetez 10 poutouquins, c'est dans un sac plastique, on vous met. Et ça ne gêne personne. Alors que nous savons ce que ça constitue. Du point de vue de la protection de l'environnement. Et donc, c'est pour dire tout simplement que si rien n'est fait, actuellement, les fortes chaleurs que on enregistre, ce n'est pas au Togo seul, ailleurs, dans d'autres pays, si on ne prend pas garde, les générations à venir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le monde, la planète a des soucis à se faire.
D'accord. Hélène, bonjour.
Bonjour, Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes en train de parler alors de notre maison commune qui est la Terre. Et il y a des actions humaines qui continuent alors de détruire cette maison commune. Et la journée de la Terre cette année, bien sûr, c'est le 22 avril, c'était le lundi. Et nous parlons de l'éradication alors des déchets plastiques ou du moins des sachets plastiques. Et oui, Abbas nous l'a rappelé tout de suite. Je veux bien parler alors de ce décret qui a été pris pour réguler l'utilisation alors des sachets plastiques. Mais finalement, c'est comme si ce décret n'a rien donné comme action.
Bon, on peut le dire parce que ça fait des années que cette histoire perdure. Les sachets plastiques bio, non bio et tout, on voit beaucoup plus dans les pharmacies qui utilisent davantage des sachets plastiques biodégradables pour pouvoir vendre, servir quand même des médicaments. Mais en réalité, aujourd'hui, le problème, comme Michel l'a dit, quand vous voulez acheter du botocoin au bord de la route, c'est dans un sachet plastique qu'on vous sert. Quand vous voulez acheter du riz, c'est dans un sachet plastique. En tout cas, vous allez au grand marché, du pain par exemple. Le pain, aujourd'hui, quand vous serrez ou bien vous voulez acheter du pain, c'est dans un sachet plastique. Bon, toutes ces habitudes, aujourd'hui, il va falloir que nous puissions nous-mêmes commencer à changer de mentalité. Parce que vous allez dans des pays un peu plus développés, vous allez constater qu'on vous sert même du pain dans un emballage papier.
Papier, oui,
qui se dégrade facilement. Mais le sachet, c'est très compliqué. Donc, il va falloir qu'on puisse aujourd'hui au niveau même de l'État voir comment réguler la situation ou bien le secteur pour qu'on n'ait pas à crier davantage au loup en ce qui concerne les sachets plastiques, parce qu'on est inondé de sachets plastiques. Quand vous regardez aujourd'hui un dépotoir, ce qui frappe aux yeux, c'est les sachets noirs qui sont quand même inondés. Amusez-vous à prendre une photo, vous allez voir que le dépotoir est orné de sachets noirs. Donc c'est beaucoup plus ça, ce qui détériore ou dégrade l'environnement et qui empêche l'eau de rentrer dans les nappes phréatiques, empêche quand même beaucoup de choses. Et quand les quartiers sont inondés, par exemple, on constate tout simplement qu'il y a quoi ? Le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas à ignorer également. Et je crois que la lutte doit continuer. Aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes, la génération à laquelle nous appartenons, doit quand même mener une lutte sans merci pour la protection de l'environnement.
Jean Legrand, c'est vrai que aujourd'hui on veut plus l'éradication même d'ailleurs de ces sachets plastiques. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on y arrivera?
Vous savez, c'est une grande question que vous posez là. Ambroise a tantôt planté le décor et a presque vidé le sujet, mais j'ai quand même des choses à dire. Vous savez, le sujet environnemental est une question très cruciale, mais aujourd'hui, tout le monde fait semblant d'aborder la question, mais de ne pas aller au fond, de ne pas véritablement poser le débat, les questions qu'il faut pour qu'on résolve définitivement ce problème-là.
Des questions pertinentes ?
Oui, des questions pertinentes. Et tantôt, Michel l'a dit, c'est un monde hypocrite dans lequel nous vivons actuellement. Et moi, je dis que la question environnementale, hein, aujourd'hui, qui n'est pas véritablement touchée, prouve en quelque sorte la face cachée du capitalisme à outrance, qui a été encouragé pendant des décennies, voire un siècle. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que le capitalisme a créé depuis plusieurs années. Le développement, mais aujourd'hui on s'est développé. Et moi je dis qu'actuellement, il y a les secteurs qui préoccupent plus quand vous allez dans les pays développés, c'est la gestion des déchets. Parce qu'on produit tellement de déchets parce que nous sommes développés, qu'aujourd'hui il se pose la question de comment les recycler, comment faire en sorte que le développement où nous sommes arrivés, cela ne soit pas aujourd'hui dommageable pour nous. C'est la véritable question. Mais vu qu'il y a tellement d'intérêts, chacun voit un peu ce qu'il gagne, ce qu'il perd, et tout le monde fait semblant de ne pas... On ferme les yeux sur certaines choses, mais comme nous le remarquons aujourd'hui, plusieurs pays sont en train de payer le lourd tribut. C'est-à-dire, la question de l'environnement, que vous le vouliez ou pas, que vous faites semblant de ne pas le voir, elle va vous revenir face au nez un beau jour. Et ça a commencé avec ce qui se passe à Dubaï, dans les pays. Vous voyez des rats de marée, comment la mer sort, les pluies diluviennes, mais aujourd'hui, il y a des situations qu'on ne vivait pas, mais aujourd'hui, qu'on vit depuis quelques années, et ça va aller crescendo. Si rien n'est fait, ça va aller de mal en pis. On parle des déchets plastiques. On a pris un décret entre-temps. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est fait? Tu m'as posé la question. Toi et moi, nous pouvons aisément répondre à cette question. Quand nous voyons qu'un peu partout, c'est toujours les sachets plastiques qu'on utilise. Et même entre-temps, le chef de l'État même avait acheté du pain. Ça a été médiatisé dans un sachet plastique. Et ça a plu au tollé. Parce qu'on s'est dit, mais pourquoi il y a un tel décret? Et puis bon, voilà le numéro 1, même bon, par bégade qui est tombé. C'est dire qu'en fait, que aujourd'hui, ces habitudes-là ont la peau dure dans nos pays. C'est quelque chose qui est tellement ancré. Et pour résoudre effectivement ce problème, il va falloir véritablement passer par une grande sensibilisation, amener les individus à comprendre en réalité le mal que ces déchets plastiques nous causent. Et moi, je dis que ce n'est pas uniquement l'apanage des OSC, des petites organisations et tout ça. Non, il faut que l'État même s'implique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons des problèmes d'environnement, l'État est le premier indexé. Quand les gens crient, non, l'État ne fait rien. L'État... Mais il faut commencer. Parce qu'aujourd'hui, comme Elom l'a dit, quand ces sachets-là restent dans le sol, ça empêche l'absorption de l'eau. Les nappes phréatiques, l'eau n'arrive pas à entrer. Et c'est nous tous qui souffrons encore. Je crois véritablement qu'il faut qu'on repose le débat, qu'on ne reste pas cantonné uniquement sur, c'est vrai, les questions politiques, économiques et tout ça, mais qu'aujourd'hui qu'on voit, parce que la question environnementale, quand elle va dégénérer, elle ne va pas voir de quel parti vous êtes. Elle ne va pas voir si vous êtes homme d'affaires ou pas. Tous nous allons subir durement le coût de ce que cela va nous engendrer.
Le problème que nous avons...
Oui. Ambras avait beaucoup parlé. Laisse-nous parler maintenant.
S'il vous plaît.
On laisse Michel.
Pascal, ce qu'on doit relever dans tout ça là... Ce qu'on doit relever, c'est que on ne peut pas faire de la lutte contre le réchauffement climatique, les bouleversements que nous observons actuellement, on ne peut pas lutter contre ça en faisant des concessions. Non. Vous savez, je prends l'exemple du Rwanda. Là-bas, on a fait en sorte, on a discipliné la population, ce qui fait que lorsque vous avez un papier sous la main, vous êtes obligé de le tenir jusqu'à ce que vous ne trouviez une poubelle.
Est-ce qu'au Ghana, tout près de nous ici aussi, je pense qu'il y a cette mesure.
Oui, ils sont en train. Ça n'a pas commencé hier. Hein? Rappelez-vous en 2012 au temps de CST, où on a demandé aux gens de déverser les ordures ménagères dans les rues pour protester. Oui. Les partis avaient demandé cela. Et on sortait, on voyait. Les gens venaient ailleurs, mais les populations s'organisaient pour nettoyer leur quartier. Mais ici, on demandait aux gens d'aller verser, pour protester contre le régime, d'aller verser. Ceux qui versaient ça ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils sont les premières victimes. Parce que vous, lorsque vous inhalez les odeurs de ces... Vous pouvez après choper un cancer après. Cancer. Vous voyez? Donc, moi, je veux la rigueur dans cette lutte-là. Tant que les États vont observer avec complaisance, ou bien vont aborder cette question avec complaisance, nous allons continuer ainsi. Sinon, quand vous prenez Rwanda, l'île Maurice, là-bas, vous pouvez aller rapidement en prison à cause de ces...
Il faut des mesures contraignantes.
Contraignantes, parce que vous ne faites pas ça pour vous, vous faites ça contre les autres.
D'accord. Ambrose, ce que vous demandez aujourd'hui, ce que vous exigez, c'est-à-dire l'interdiction de ces sachets plastiques, est-ce que ce n'est pas un chimère, ce ne serait pas alors de... ce ne serait pas un vœu pieux?
Oui, ta question elle est pertinente dans ce sens que... beaucoup peuvent voir l'aspect économique et social de la chose. Quand on parle de l'aspect économique, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans la filière sachet, il y a des grossistes, il y a des fabricants, et tout cela ont des familles. Maintenant, il y a des détaillants aussi, j'en connais. Quand on a commencé cette lutte-là, ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années, il y a de 15 ans, et il y a une dame qui vend ça dans ma paroisse, elle dit, tonton, comment tu veux qu'on fasse ça? On va plus vendre ça. Quand elle a dit ça, je me suis rentré à l'intérieur. J'ai compris que le problème n'est pas seulement à un niveau où il faut contester un produit. Il faut savoir aussi résoudre le problème en amont avec ceux qui le font. Mais je sais quand même que le développement doit passer pas par la violence, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui souffrent. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour que l'on puisse aller réellement au développement. Et ta question, elle est pertinente en ce sens que on n'avait pas les sacs plastiques par le passé. On avait des feuilles de teck de banane, on avait des papiers en carton, tout ça là. Même si les cimas romains ne sont pas tellement recommandables, mais on a quand même quelques. Nos parents utilisaient des choses jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les bonnes dames qui sont du côté Bitnine ou du côté Casablanca ghanéen là fabriquent les boules d'acpan dans les feuilles de banane et c'est joli. Et c'est écologiste. C'est écologique. Donc, pour dire qu'en réalité, il y a toujours de la matière à trouver une solution à un problème qui gangrène, qui tue plus l'humanité qu'une poche de groupe de personnes qui doivent en bénéficier. Donc aujourd'hui, je crois que il va falloir faire violence et aller à la sévérité. D'ailleurs, il y a des gens qui en fabriquent. Ils leur disent simplement que d'ici telle année, qu'ils fassent tout pour transformer les sacs plastiques en carton. Fabriquer plutôt, nous, plutôt les sacs en carton et en végétal. C'est possible. On prend des végétaux pour fabriquer des trucs là qui font 3 mois, 4 mois ils disparaissent dans la nature. Maintenant, le problème qui me choque le plus, ce sont ces climato-sceptiques que nous avons partout, ces droitistes-là, ces extrêmes droitistes du genre Donald Trump, et ça clique les Bolsonaro, l'actuel président argentin, tout ça là, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que c'est des psychopathes. Bon, je ne vais pas utiliser des mots, mais je comprends que tout ce qui se passe en Californie, l'ouragan, quand tu vois le vent balayer, alors que toutes les maisons pratiquement sont en bois, balaye tout, le vent soulève à 200 km/h, soulève une voiture jusqu'à 60 mètres de haut pour le jeter dans une lac. Tu peux comprendre ça. Ce qui s'est passé la dernière fois en Chine, quand tu vois, c'est triste. Beaucoup sont morts, 60 personnes sont décédées comme ça facilement. Au Kenya, avant-hier. Au Kenya. Donc, vous allez comprendre que les changements climatiques sont un problème pour le monde. Et donc, ces climato-sceptiques doivent comprendre aujourd'hui que nous devons dissocier la question politique à la question climatique. Parce que quand on veut surfer pour nos intérêts politiques, en lorgnant les questions climatiques, nous risquons d'avoir une terre qui n'existera même plus.
D'accord.
Parce que retrouvons la terre telle que Dieu nous l'a laissée pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Merci, cher confrère. Nous allons quitter cette question environnementale et nous allons rentrer un tout petit peu en politique pour parler de cette campagne électorale qui est en cours. Nous sommes dans la dernière ligne droite alors de cette campagne électorale. Et l'homme, vous suivez cette campagne électorale. Je sais qu'il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur cette campagne électorale aujourd'hui. Il y a déjà le journal Le Changement qui titre à ça une campagne électorale en intégralité, le programme du CAR. Il y a Chronique de la Semaine qui titre aussi à ça une campagne électorale, la dernière ligne droite. Il y a Elom, vous titrez également votre le journal La Nouvelle Tribune, campagne unie bat le record de la mobilisation avec Yawategan Akpele. Alors Elom, quelle est l'observation que vous faites en tant que journaliste alors de cette campagne électorale?
Bon, en général, je dirais que tout se passe bien depuis le début de la campagne, à part quelques incidents vite maîtrisés par la force sécurité élections législatives et régionales. Tout se passe globalement bien, tous les partis politiques se comportent très bien sur le terrain. On voit quand même, on a quand même à travers les réseaux sociaux les échos de ce que les uns et les autres sont en train de faire, notamment la campagne de proximité, les initiatives porte-à-porte, pour porter le message vers les populations. On a également constaté que cette année, la plupart des partis politiques ont choisi beaucoup plus l'intérieur du pays, notamment les zones reculées, isolées, pour pouvoir entretenir les populations sur la nécessité de voter.
Mais est-ce que c'est pour dire que Lomé est déjà acquis et qu'on doit plutôt aller à l'intérieur pour conquérir d'autres personnes ou l'électorat?
On a souvent un petit problème dans tous les secteurs au Togo, c'est qu'on considère que la capitale, c'est là-bas, il faut tout concentrer. Alors qu'aujourd'hui, l'intérieur du pays, quoi qu'on dise, dans tous les projets, est souvent oublié. Il faut le dire, dans tous les secteurs, c'est pas seulement la politique. Quand vous avez aujourd'hui des projets de développement, quand vous avez aujourd'hui des mairies, où, par exemple, on vous dit que l'intérieur du pays, avant que le chef de l'État ne puisse prendre le décret qui acte, quand même, je vais me répéter, la gratuité de l'acte de naissance. Avant, l'acte de naissance était plus cher à l'intérieur du pays qu'à Lomé, ce qui était un paradoxe. Et donc, dans tous les projets, dans tous les secteurs, on constate que l'intérieur du pays est souvent négligé. Quand je prends, par exemple, la presse togolaise, on fait souvent des formations et tout, mais on concentrait beaucoup plus tout dans la capitale. Au fur et à mesure, maintenant, les choses sont en train de se décentraliser. On fait quand même l'effort d'aller vers l'intérieur du pays. Donc, cette année, on a constaté qu'il y a beaucoup de partis qui ont choisi d'aller à l'intérieur du pays, dans les contrées difficiles d'accès, pour pouvoir discuter avec les populations, échanger avec eux, identifier leurs besoins. Quand vous allez à l'intérieur, vous constatez qu'il y a des villages, des cantons qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau potable. C'est des problèmes réels, vous comprenez? C'est des problèmes réels. C'est pas le rôle d'un député d'amener de l'électricité dans un village. C'est pas le rôle d'un conseil régional d'amener justement de faire construire une route ou de faire construire un hôpital. Mais les conseils régionaux peuvent contribuer au développement en prenant des initiatives ou bien en faisant voter des décisions au niveau de l'Assemblée nationale via d'autres plaidoyers, puisque c'est le rôle des députés de pouvoir voter des lois qui vont quand même contribuer au développement de la zone. Mais aucun député, aucun conseil régional ne peut à lui seul ou décider de pouvoir goudronner une route, amener de l'électricité ou construire un forage, faire ouvrir une école.
Ils n'ont pas les moyens.
Ils n'en ont pas les moyens. C'est même pas leur rôle. Donc aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut féliciter l'ensemble des partis politiques qui se comportent déjà bien sur le terrain. Il n'y a pas d'incident majeur. Féliciter quand même l'esprit de tolérance, la cohésion qu'il y a au niveau de cette campagne. Parce que, vous savez, par le passé, on a souvent de cette tension dans certaines zones. Aujourd'hui, il y a des zones où, par exemple, Akiz a des partis, mais il y a d'autres partis qui viennent battre campagne tranquillement, sans problème. Donc, on croit quand même qu'il y a cette grandeur d'esprit-là au niveau de cette campagne électorale, surtout que c'est un double scrutin. Donc, félicitations. On espère que tout va se passer comme cela jusqu'à la fin, jusqu'à samedi, parce que vendredi.
Ouais.
Samedi, la campagne prend fin. On espère que tout se passera bien jusqu'à samedi pour que la paix puisse être le gagnant lors de ce scrutin.
D'accord. Michel, vous titrez à la une de votre journal Ouara les vainqueurs. Les différents candidats maximisent les derniers jours de la campagne ou de campagne. Alors, quand on suit cette campagne électorale avec les messages des partis politiques ou des messages des candidats, des différents candidats, finalement, est-ce que vous êtes satisfait de ces messages en les suivant, en observant tout ce qui se passe?
Oui. Les partis politiques véhiculent des messages. Ces messages, pour chaque parti politique, ça ne varie pas. Votez pour moi parce que c'est mon parti politique qui est à même de vous faire ceci, qui est à même de vous apporter du bonheur, qui est à même de vous donner la joie de vivre. Pour chaque parti politique ou chaque candidat, ça n'a jamais changé.
Mais ce n'est pas aussi des promesses démagogiques.
Bon, je ne peux pas le savoir, d'autant plus que il faut attendre le parti vainqueur, le voir à l'œuvre et voir si réellement ce qu'il a dit, il a menti ou pas.
Dire que non, je vous donnerai du bonheur quand vous votez pour moi, et je vous ferai ci, je vous ferai ça. Et oui, c'est vrai que mais ça doit être quand même dans la mesure du possible. Il faudrait quand même pas que ça soit aussi démagogique, ces promesses.
En tout cas, les messages que nous suivons, tu sais, la dernière fois, nous avons gestionné un peu quelques villes dans les lacs, quelques localités. J'ai pu voir comment les meetings se faisaient, les caravanes et tout. J'ai compris que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Et notre souhait, c'est que qu'il n'y ait pas de problème majeur. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est de charmer son électorat, d'amener son électorat à pouvoir voter pour vous. Sinon, en dehors de ça, ce qu'il faut relever, c'est que au Togo, comme partout ailleurs, dans les villes, il n'y a pas de problème. Chacun sait ce qu'il fera le 29. Vous savez, c'est dans les zones rurales où l'opinion peut changer. Bon, quelqu'un peut être indécis. Il suffit qu'on amène des gens qui dansent.
Quelques tricots.
Ou même si nous n'avons pas
des
tricots.
Sacs de riz.
Ça dépend. Bon, pas forcément, mais ça dépend du message aussi. Hein.
Oui, oui.
Ça dépend du message. On peut ne rien vous donner, mais le message peut aussi vous convaincre. Mais dans les villes, ce n'est pas...
Est-ce que vraiment les gens se laissent convaincre par des messages ou bien plutôt des actions?
Par des messages.
Ou des gestes.
Action comment? Vous êtes venu vous parler de ce que vous êtes en mesure de faire si vous êtes élu.
Mais il y a des gens quand même, en fait, des localités où après avoir parlé, même on vous dit, mais écoutez, nous voudrons, j'écoutais même le professeur Oulou, hein, déjà hier, qui disait que lui, il est parti dans des localités où après avoir parlé, on lui dit, mais elle est tricot.
Mais c'est normal, puisque les gens sont habitués à ça.
On est habitué aux gens.
On a peut-être habitué aux gens. Parce que si vous êtes lettré, le tricot ne change rien à vous. Hein. Mm-hmm. Vous avez votre choix, vous attendez juste le 29. C'est peut-être les populations, peut-être dans les zones rurales, où bon, on vient vous. Peut-être que le monsieur ou la dame n'a pas été indécis ou indécise. Mais on vient l'expliquer que voilà, nous avons commencé telle activité. Si vous nous faites confiance, nous allons continuer. Nous allons faire ceci. Bon, ou alors, vous avez les autres ne font pas bien. Si nous, on vient, voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est ce genre de mesures qui peuvent changer un peu certains dans les zones rurales. Sinon, dans les villes, ma foi, les gens, chacun sait, hein. Chacun a fait son choix il y a très longtemps.
D'accord. Donc, merci, Michel. Oui, Jean Legrand. Est-ce que vous avez aussi l'impression que des gens comprennent le message et des gens sont justement décisifs sur leur choix déjà pour le 29 prochain?
Pour lundi.
Lundi?
Oui, le 29, c'est lundi. Oui, il faut dire quand même que dans les grandes villes, difficilement les gens changent de choix. Parce que vous savez, en ville, les gens ont une certaine ouverture d'esprit, analysent beaucoup plus et ont déjà des choix a priori, mis à part peut-être qu'il y a peut-être un événement de dernière minute qui amène la personne à se questionner. Sinon, déjà depuis, je vais dire, peut-être un, deux mois, chacun déjà sait ce qu'il va voter. C'est plus dans les zones rurales que les gens attendent peut-être avoir quelque chose ou se voir miroiter quelque chose pour pouvoir se décider. Parce que vous savez, dans nos zones rurales, il faut le dire, les gens ne sont pas trop éveillés et la culture citoyenne, comment je peux le dire, la citoyenneté n'est pas tellement ancrée. Les gens peuvent facilement monnayer leur vote. Et moi, j'ai été choqué quand il y a une image qui a circulé où un candidat a exposé des sachets de gari devant une population. Mais je me suis posé des questions.
Est-ce que ce n'est pas ça aussi le besoin de cette population?
Oui, même si c'est le besoin, c'est dire qu'en fait, on a un niveau de pauvreté très élevé. S'il faut exposer du gari aux gens avant de leur parler d'un message politique, mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et je crois que, on doit y remédier. Et je crois que même au sein de ce parti, il faut que peut-être ce candidat soit discipliné parce que ce n'est pas des actes de nature vraiment encourageants. Et l'autre chose que moi j'ai remarqué, c'est que nous avons une forte représentativité de candidats indépendants actuellement. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais depuis 2018, ces indépendants commencent par prendre de l'ampleur à chaque échéance électorale. Et pour d'aucuns, ce sont des candidats colorés. Mais est-il dit que les jours à venir, les mois à venir, nous dirons vraiment si ces candidats étaient vraiment indépendants ou étaient des indépendants colorés. Et bon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Se passe bien. Oui. Sauf quelques endroits, il faut le dire, où certains individus ne sont pas d'accord. Et c'est plus à l'endroit du parti au pouvoir que les gens empêchent ces activités, souvent dans ces zones reculées-là. Et quand vous observez, c'est que ces gens disent « Non, on nous a promis tel il y a quelques années, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'on nous a promis, donc ils ne peuvent pas arriver, ils n'ont qu'à faire tel avant d'arriver. » Donc, vous voyez, c'est un peu ces genres de choses-là qui essaient de créer du désordre. Maintenant, l'autre chose...
Et c'est pas bon.
C'est pas bon, en fait. Mais c'est également l'occasion de dire aux candidats de ne pas faire de fausses promesses. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous attendent. Je vais dire une fois ici. Le Togolais de 2000 n'est pas celui de 2010, n'est pas celui de 2020. Celui de 2004 est beaucoup plus éveillé. Et aujourd'hui, les candidats ont choisi plus de travailler avec les réseaux sociaux. C'est ce que moi j'ai remarqué. Et les médias sont en réalité les parents pauvres de cette échéance électorale. Et même quand vous allez à l'intérieur du pays, les médias de l'intérieur galèrent, si on peut le dire ainsi. Parce que beaucoup de candidats n'approchent plus les médias. Il suffit de produire un petit texte, on balance les photos dans les groupes WhatsApp et puis c'est fini.
Les
réseaux sociaux ont remplacé totalement les médias. Mmh. Et c'est à peine quelques médias de l'intérieur qui arrivent, de la capitale, qui arrivent à s'en sortir. Moi, je crois que ça doit nous amener véritablement, nous les médias, à réfléchir parce que même le fond qu'on dit, qu'on prétend nous donner pour cette campagne électorale, c'est un fonds, ma foi, je ne sais pas combien de médias pourront remplir ces critères pour avoir ces fonds. Et c'est après la campagne qu'on va l'avoir.
D'accord. Ambrose, est-ce que vous avez aussi l'impression que déjà au niveau de la population, il y a une certaine maturité aujourd'hui? Parce que déjà, on a appris que dans la semaine, au cours de cette campagne, dans une localité, il y a un parti politique qui est venu. Et les habitants lors de la localité, même d'ailleurs, ont chassé ce parti politique. Ils lui ont dit, mais déjà, il y a de cela 5 ans, vous nous avez promis un certain nombre de choses. Il n'y a que quand même de l'arbre que vous êtes venu à leur planter. Et on a appris cela. Ça veut dire qu'il y a une maturité également qu'on commence par avoir au niveau de la population.
Moi, je l'ai toujours dit ici que les Togolais, depuis les années 90, avec l'avènement de la démocratie, ont une certaine maturité politique. Maintenant, à cela, c'est à jeun la maturité électorale. C'est vrai que ce que les confrères ont dit par rapport aux zones rurales, il y a quelques poches de résistance dans la connaissance de la chose, pas politique, mais dans une certaine civilité électorale que les gens ont manqué, parce que la vieille qui fait Paris veut aller au champ pour aller déterrer le manioc. Sa préoccupation, c'est comment arriver à vendre ça pour pouvoir nourrir ses enfants et trouver du poisson. Parce qu'on en sort dans le champ, mais on n'a pas le poisson. Le poisson, c'est vers ici. Et donc, j'ai vu aussi un monsieur qui a pris le coupe-coupe pour empêcher un candidat de venir prester ou faire la campagne. Tout ça, ce ne sont pas des bonnes images qu'il faut présenter au public. Mais ça dénote tout simplement du fait de la démagogie que vendent certains candidats. Vous allez entendre des gens dire des choses, des saillies qu'on peut sous-estimer, mais qu'on peut réaliser sur d'autres planètes, pas sur la Terre. Ils le disent tout simplement, tout en ignorant qu'en le disant, ceux qui ont une connaissance de la chose législative ou régionale savent très bien que les médias, pas les médias, les députés sont élus pour pouvoir légiférer et ensuite contrôler l'action du gouvernement. Dans cette campagne, moi, je sais qu'il n'y a pas eu d'engouement comme les années 98. Et oui, 98 et à peu près 2003. Enfin, 2005, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens ne s'y intéressent pas tellement. Et ce que j'ai relevé aussi, on ne peut pas demander aux gens d'aller faire campagne et qu'il y a une loi qui indemnise, qui octroie des subventions aux partis politiques à travers l'État. Cet argent-là ne soit pas disponible dès le début même de la campagne. Il vient de parler des médias. Bon, vous voulez aider les médias. 50 millions, il y a beaucoup de médias. Il y a les télé, les radios, les presse écrites, la presse en ligne actuellement.
Mais là, il y a encore beaucoup de critères.
Et donc, nous, on a essayé de faire le juste milieu pour la campagne. Vous savez, il y a une règle qui dit qu'il faut équilibrer ça beaucoup. Peut-être ceux qui sont des activistes l'ignorent. Nous sommes des journalistes. Et quand... C'est pas que ça, si ça vous plaît. C'est vrai que certains ne sont pas obligés de le faire. Mais quand vous êtes légaliste, vous êtes obligé d'équilibrer les images pour la campagne. Nous aussi, on a essayé de faire quelque chose. Vous allez voir des images sur la une de notre journal, bon, qui n'est pas encore arrivée. On a eu la DMP. On a 2 indépendants. En tout cas, c'est eux qui nous ont approchés en termes de finances. Ceux qui ne nous ont pas approchés, bon... Vous ne m'avez pas approché. Si vous avez vu une idée sur le truc là, c'est justement pour équilibrer, pour jouer à l'équilibrisme, pour ne pas dire qu'on est, nous on n'est pas contre une idée en fait, mais c'est le système et le régime que nous combattons, et ce combat va se poursuivre. Mais nous,
mais tiens, journaliste,
Ambrose, vous êtes oui, dans une oui, idée,
je suis, plutôt... oui, dans mes idées, c'est que je suis toujours dans le journalisme de combat, ce que la hacker autre refuse là. Moi, je les écoute, mais je les écoute pas. Parce que tant que l'injustice, l'hypocrisie et la confiscation à vie du pouvoir ne quittent pas ce pays, je serai toujours dans le jeu de combat.
Ambrose, parlons de la campagne.
Pour dire qu'en réalité, la campagne s'est bien déroulée. Et surtout, certains candidats indépendants qui se sont lancés dans la bataille. Actuellement, le docteur Aubenton est à l'intérieur du pays. J'ai demandé, mais vous êtes allé jusqu'à l'intérieur? Ils disent oui, ça c'est un candidat indépendant ça. Et vous allez voir des gens, toute une machine derrière. J'arrivais à Idogome jusqu'à Tikoumé, vous allez voir des panneaux d'affiches de 60-40 là, qui sont affichés sur les poteaux électriques depuis Zangela, je crois, jusqu'à Tikoumé. Tu penses que quel parti politique peut faire ça?
C'est les moyens.
Au-delà de ça, il y a un autre parti politique qui chevauche le Parti Uni, qui aussi a de grosses voitures qu'on loue peut-être 1 500 000 par jour. Il y a au moins 3 voitures avec une sonorisation à haute décibel. Et je me dis, mais attends, les gens ont de l'argent dans un pays comme ça. Sauf que ici, dans ce pays, quand tu as l'argent comme ça, c'est que tu es proche du pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Non, ça, c'est une impression.
C'est une réalité. Par contre, les opposants. Adjamagbo a sorti un communiqué, la DMP. Même la caution qu'il doit payer, les 113 millions ou 100 quelque millions qu'ils ont eu pour la moitié de ce qu'ils devaient avoir sur les 650 millions, c'est avec ça les 40 millions qu'ils sont allés payer la caution pour les listes qu'ils ont déployées sur le territoire.
D'accord.
Pour dire que nous sommes dans un pays électoralement à géométrie variable. Il y a des gens qui sont tôt, ils ont toute la machine. Et ce qui doit inquiéter maintenant, c'est d'éviter de transporter les procès-verbaux des bureaux de vote, de changer les procès-verbaux en cours de route. Ça, j'insiste là-dessus. Et j'ai suivi Pedro Amouzou ce matin sur une radio qui a dit un truc très intéressant. Il dit, tant que le dépouillement est fait et que la loi autorise à ce que ce dépouillement, les résultats soient affichés, tout le monde le sait, que les résultats sont tombés dans le domaine public. Et quand le résultat tombe dans le domaine public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut s'en saisir. Vous pouvez prendre vos portables, photographier et envoyer à qui vous voulez. Parce que c'est dans le domaine public.
Et la loi le dit. Sociaux.
Voilà, et la loi le dit. Comme au Sénégal, ça c'est. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les médias ne peuvent pas le faire, tant bien même que la loi leur autorise de le faire. Sauf que, Elon Matisse, peut-être ils sont trois dans la rédaction. Est-ce qu'ils ont pu envoyer des journalistes sur tout le territoire? Donc, on a bien fait de nous amener, de nous amener dans un organe de presse à une entreprise de preuve pour aller à une société. Quand tu es confiné dans un trou comme ça, tu peux avoir combien de journalistes pour aller jusqu'à Carada, par exemple.
D'accord, merci.
C'est ça la réalité.
Non, okay.
Non, c'est ça la réalité.
Non, je ne vais pas me permettre une autocritique ici, mais je crois quand même que de ce côté-là, il revenait quand même à toute la presse de s'organiser pour pouvoir faire un meilleur maillage du territoire. On l'a fait par le passé, on a vu des organisations de presse se donner la main pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire avec un projet financé par le PNUD, je me rappelle très bien. Et donc il va falloir que
PL.
Oui, mais à l'avenir ou bien sur ce scrutin par exemple, il fallait quand même bien peut-être que il n'y a pas eu de marge financière cette fois-ci au niveau des institutions internationales ou que bon véritablement il y a des choses qui n'ont pas été bien ficelées, sinon les organisations de presse pouvaient se donner la main pour déployer sur le terrain quand même pas des observateurs mais des reporters. C'est qui ça. Vont rester sur le terrain pendant une période donnée pour rapporter ou signaler à travers des plateformes spécialement créées à cet effet des informations sur lesquelles vont se reposer ou vont reposer plutôt des rédactions pour publier ou faire des articles et des productions. Quand vous avez par exemple 10 reporters dans la savane, c'est plus facile d'avoir des informations sur véritablement les partis qui inondent le terrain avec des campagnes, avec des meetings lors de la campagne électorale. Parce que nous, on est à Lomé, ce qui vient de Dapaon, on n'a qu'un seul son de cloche. C'est toujours mieux si on se donnait la main au niveau des organisations de presse de travailler dans ce sens pour qu'à l'avenir, on ne va pas. Parce qu'il n'y aura plus d'élections présidentielles. Et donc, ces élections législatives et régionales ont valeur de test. Et donc, au niveau de la presse, il va falloir que nous puissions également réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut mieux s'organiser pour faire un meilleur maillage du territoire, afin de donner plus d'informations aux populations. Deuxième point, si nous voulons, dans une certaine mesure également, avancer, vous voyez par exemple, la route qui passe devant Canal FM ici, il y a quand même de gros trous, ou de grands trous sur cette voie-là, et on a crié tout le temps dans ce studio que c'est dans une certaine commune, Golf 4 notamment, et tout le temps qu'on passait sur cette route-là, le problème était là sans solution. Quand on a annoncé les élections législatives et régionales, on a commencé à bloquer la voie, les travaux ont commencé. Il y a eu de ces situations à l'intérieur du pays également. On a vu des populations qui ont demandé des choses, mais il a fallu qu'on annonce l'élection présidentielle pour que, enfin, les élections législatives et régionales pour qu'on puisse avoir un début de solution. Il faut également éviter ça. Vous comprenez? Par exemple, on a cette semaine, on a appris que la route de l'entreprise de l'Union qui tombe sur Vakwasito, en allant à Zosimé. Oui. Mais ça fait longtemps que des populations réclament qu'on puisse entretenir cette route-là. Et ils ont envoyé un message aux partis politiques qui sont à la mairie, qui gère la mairie de cette commune, que s'ils ne réparent pas cette route-là, il y aura un vote sanction. Vous comprenez? S'ils ne trouvent pas une solution, on ne dit pas de goudronner, on dit juste d'aménager pour que les gens puissent circuler. Parce qu'il y a quand même un grand monde qui quitte Zosimé, Fakwasito, qui tombe sur la route de l'entreprise de l'Union chaque matin. Mais là, allez voir l'état de la voie. Mais c'est compliqué. Mais il y a quand même une mairie qui est là, qui doit régler les problèmes des riverains, qui chaque fois écrivent, font des démarches pour demander à la mairie de la zone, mais faites-nous ceci, faites-nous cela. Mais c'est les mêmes qui sont au niveau de cette mairie-là, qui me disent que nous sommes là pour construire. Nous sommes là pour... Si vous suivez bien mon regard, vous allez voir à peu près, ils se connaissent. Nous sommes là pour donner un souffle nouveau. Nous sommes là pour... Mais le même message. Mais le problème est là. Le problème est réel. Et il n'y a pas de répondant pour dire, ne serait-ce que... au moins écouter et puis donner des solutions, des pistes de solutions en attendant. Donc, en réalité, par rapport à cette campagne, oui, il y a la paix. Il y a quand même une certaine convivialité dans la campagne, mais en réalité, le problème demeure parce que, vous savez, le fait que les Togolais puissent savoir justement qu'il n'y aura plus d'élection présidentielle, ça enlève quelque chose aussi à la campagne en cours.
D'accord.
Ça enlève quelque chose à la campagne en cours. En fait, ça fait partie des non-dits de la campagne aussi, parce que on est là, on vit la campagne, mais devant, on se dit que il n'y aura plus d'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses. Parce que les artistes parlent, ils se plaignent. Parce que c'est quand il y a les élections présidentielles que les artistes aussi vivent. Des chansons, des prestations, etc. Les opérateurs économiques, des gadgets, etc. Ensuite, toute la machine économique derrière, la machine ne va plus vivre.
D'accord.
Et la presse, etc. Mais ces élections législatives nous ont tous surpris, il faut le dire. Parce qu'on a fait plusieurs reports. On nous met devant, on rentre dans la campagne. Et comme Ambroise l'a dit, on est dans la campagne, mais on ne sent pas, on n'a pas véritablement l'impression que, Jean l'a dit, à l'intérieur du pays, les radios, les médias, c'est difficilement qu'ils vivent.
Tout à fait.
Et les réseaux sociaux, on en parle, mais quel est le taux de pénétration d'Internet à l'intérieur du pays? Les gens ont un téléphone à l'intérieur du pays, oui. Les gens ont peut-être un smartphone, mais combien sont connectés? Vous allez envoyer un message peut-être à votre maman ou à votre papa qui se trouve quelque part dans un village.
Elom, merci.
Et c'est le soir qui va vous répondre.
Merci beaucoup, Elom. Jean, c'est vrai que je voudrais qu'on s'intéresse aussi à cette question à l'ordre d'observation. Hein. Il y a l'Église catholique qui a voulu envoyer 500 observateurs, hein, sur le terrain pour la couverture ou l'observation même d'ailleurs de ces élections. Il y a le journal Le Changement qui titre à sa une aujourd'hui « Refus d'accréditation aux observateurs de l'Église catholique, que veut-on aux Juifs cachés aux Togolais ?» Vous, vous titrez à la une de votre journal Canal D ce matin: observation électorale, la CENI dit non à la CEJP Togo. Alors, comment vous arrivez à comprendre alors ce refus de la CENI par rapport à cette demande du Conseil épiscopal Justice et Paix?
Oui, il faut dire que pour l'observation électorale, il y a des critères qu'il faut remplir pour être accrédité. Et dans une réponse qui a été rendue publique en début de semaine, la CENI a récusé l'accréditation de la commission électorale Justice et Paix. Et le motif, c'est parce qu'il n'y avait pas une preuve de financement. Parce que vous savez, on se dit que quand vous voulez déployer des observateurs électoraux, il y a plusieurs critères, dont le critère de financement. On doit savoir comment est-ce que vous comptez financer cette observation. Parce qu'on se dit peut-être, moi c'est mon analyse personnelle qui est derrière, peut-être c'est pour savoir.
Mais l'Église, c'est une organisation bien structurée quand même.
Effectivement, l'Église est structurée, je ne refuse pas. Mais en fait, la commission épiscopale Justice et Paix n'est pas assimilable à l'Église catholique. C'est un démembrement, c'est-à-dire c'est une organisation de la société civile, mais chapeautée par l'Église catholique. Et donc, la CENI, dans son courrier, a exigé qu'il y ait une preuve de financement. Et bon, dans la réponse de Monseigneur Benoît, quand je l'ai écouté sur Radio Vatican, il a signifié que ce n'est pas la première fois qu'ils ont été récusés, ça s'est déjà produit une fois. Moi également, j'ai été un peu dubitatif, je me suis posé des questions. Je me dis, bon, l'Église catholique aujourd'hui, tout le monde la connaît. L'Église, on sait quelles sont les sources de financement de l'Église. C'est les quêtes, les offrandes et tout ça. Est-ce que ça pourrait poser un certain problème? Ou est-ce qu'on doute de cette Église, en fait? C'est une question qui m'a traversé l'esprit. Mais en même temps, je me suis posé la question de savoir, mais si une fois déjà vous avez été recusé pour ce même problème, on parle de preuve de financement, bon, pourquoi peut-être pour cette nouvelle élection ne pas essayer de prouver, peut-être si c'est les comptes bancaires qu'il faut fournir, à envoyer quelque chose quand même pour qu'on puisse comprendre que bon, c'est vrai que c'est du bénévolat, mais vous savez, ici c'est des textes qui sont mis en place, et quand il y a des textes, il faut appliquer ces textes. Je crois que c'est dans ce cadre que la CENI est en train de faire le job. Mais également, je me dis, ben, vous dites, on dit que c'est des bénévoles, des bénévoles ne sont pas rémunérés. Quand on parle de bénévolat, c'est que c'est des gens, et l'Église, la CEJP l'a clairement dit, c'est des gens que nous ne finançons pas. Nous ne finançons pas. C'est des gens qui, volontairement, des Togolais répartis sur l'ensemble du territoire, qui volontairement vont faire l'observation. Je crois également que ce critère devait être pris en compte pour qu'on trouve une solution. Parce que moi, actuellement, moi, ça me pose véritablement un problème. Et je me dis, quand, au fait, c'est une organisation religieuse qui fait l'observation et qui produit un rapport, vous savez, autant que nous sommes tous croyants. Nous avons nos chapelles politiques, je veux le dire. Mais quand c'est un organisme religieux qui le fait, on se dit, bon, du moins, eux, c'est plutôt des gens qui croient en Dieu. Ils auront quand même plutôt une certaine impartialité. Je crois que c'est dans cette optique que la CEJP était, mais visiblement, on n'arrive pas à trouver le juste milieu.
D'accord. En bref, c'est vrai, quand vous, je vous fais lire, enfin, je vous lis un tout petit peu cet article, ou le titre alors de cet article à la une, alors du journal Liberté. Église catholique, ange et démon pour le régime, oui pour les messes et les bénédictions, non pour les élections. Alors, est-ce que vous avez, en quoi l'Église peut déranger en matière d'observation aujourd'hui sur le terrain?
Vous savez, c'est la peur de se faire découvrir dans une gymnastique de fraude à l'intérieur, c'est mon avis, hein, qui fait que les gens se résignent. Vous savez, l'Église catholique, ils l'ont si bien dit, il y a au moins deux églises qui sont bien structurées et qui ont un sens de démocratie quand même en leur sein. L'Église catholique et l'Église presbytérienne. Pour ce que je sais.
Les AD également.
Bon, je n'en sais pas trop parce que je ne suis pas... Puisque les AD, je sais qu'ils ont vécu longtemps sous la coupole de l'Église évangélique avant d'avoir leur récépissé en 92, je crois. Donc, s'ils sont aujourd'hui conformes, c'est bien. Sauf que là, il n'y a pas souvent de démocratie au niveau... Excusez-nous.
Non, on va aller. Oui, oui. On va rapidement.
Bon. Pour dire que, en réalité... On ne devait pas refuser ou récuser l'accréditation à l'Église catholique. Vous demandez des messes aux gens. À la preuve, au cours de cette campagne, vous allez voir les gens du parti au pouvoir aller dans l'église. Souvent, c'est avec les caméras, ils vont là-bas pour remercier Dieu. Chacun le fait souvent dans le quartier où se trouve une église catholique. Parce que
pour implorer la paix,
surtout. Les deux églises se retrouvent partout sur le territoire. Et moi, dans ma paroisse, par exemple, au niveau de l'église presbytérienne, un seul individu peut se dire, je donne 200 000 pour contribuer à la construction du presbytère. Je donne un exemple. Où on veut construire une infirmerie, quoi. Donc chacun apporte. Maintenant, l'Église ne peut pas demander à ses fidèles qui envoient des quêtes souvent. 500 personnes, c'est combien? Supposons que c'est 10 000 francs que chaque personne aura. Pour cette journée-là, vous allez manger, tu vas te déplacer dedans. 10 000 francs fois 500, ça fait combien? Mais vous avez vu ce que l'Église catholique a réalisé dans ce pays? Est-ce que vous avez vu au moins une fois? Allez, Janaoué, le CDI là. Allez ici, à Saint-Joe ici. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Les gens ont peur que les gens réditent la Cinco ici. La Cinco, c'est en RDC. Et la Cinco a déployé des milliers d'observateurs en RDC. Et la suite, on sait comment ça s'est passé. Donc, on ne veut pas une 5 bis ici.
D'accord.
Alors que le Togo n'est pas le Congo. Donc, ça ne s'explique pas, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Ambrose. Et, Michel, pour cette observation, comment vous appréciez le fait que l'observation a été refusée à l'Église catholique?
Non, la CENI a motivé son refus. de donner donc l'accréditation en arguant qu'ils n'ont pas prévu, en tout cas, ils n'ont qu'à produit une preuve de
financement.
Financement. Bon, la CENI travaille sur des critères, sur des normes. Bon, si je ne pense pas que ce soit la seule organisation proche de l'Église catholique qui a été refusée, hein. je ne pense pas. Et s'il y a d'autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté certains, ils n'ont pas respecté certains critères. Donc, on ne peut pas entre l'Église catholique et le pouvoir en place, je ne pense pas qu'il y a de l'animosité. Ambroise le disait, il y a des messes qu'on sollicite, c'est pour l'anniversaire de UNIR, pour les bonnes élections. Les catholiques sont mis à contribution. Donc je ne crois pas. Il doit y avoir peut-être un problème au niveau de papiers, au niveau de la procédure. Et si ça n'est ainsi, peut-être qu'un jour ou l'autre,
en fait,
ils pourront produire. Parce que le problème, quelqu'un le disait ici, si on sait que l'Église catholique est une organisation puissante et que ses sources de financement, on peut aisément imaginer d'où ça vient. Mais pourquoi alors ils ne produisent pas? Donc ça veut dire que c'est un problème qui nous dépasse ici.
D'accord,
je ne veux pas me mêler de ce que je ne sais pas.
Merci beaucoup Michel, merci beaucoup chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole aussi aux auditeurs, puisqu'il est midi. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient juste après pour donner la parole à nos auditeurs.
La pierre numéro 1 du Togo, c'est Jama est ton week-end de fête nationale.
Indépendance.
Ce vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril 2024, au bar Le Togo à Anoukopé.
Tout le monde ne fait que parler de.
Au casting, giga promo sur toutes les bières Jama. Prestations d'Agbotique et Kelly et entre autres de l'orchestre Los Amigos. Des jeux et concours et plein de cadeaux à gagner. Bar Le Togo, si Anoukopé accueille Jama qui célèbre l'indépendance du Togo du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2024. À ne pas se faire compter.
Avec Jama, on est ensemble.
Avec Jama, on est ensemble.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box.
Miaou? Comment ça?
Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à internet en illimité. Au CMR. Sans aucune limite de méga, hein. HM4 et 30 jours sur 30.
Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box. Hein?
Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box Fibre Canal Box sont gratuites.
Gratuites? Comment, ma?
Tu as très bien entendu. L'installation et la box Fibre sont actuellement à 0 francs.
Je veux avoir ma Canal Box.
Appelle vite Canal Box au 8866 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'Internet illimité.
93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 315. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, c'est Pélé.
Oui, Pélé.
Ok, je salue le plateau.
Oui, le plateau vous salue aussi.
Ok, je salue le plateau. Et on a besoin des observations internationaux ou nationaux. Il y en a l'international. Les nationaux aussi, ils refusent. Maintenant, oui, l'opposition, les gens, ils n'ont pas les résultats, ils n'ont pas les preuves. Ceux qui vont fournir les preuves, ceux qui seront là, leur petit Vous voyez comment le FPC a de mauvais poids. Quand il faut être clair, que monsieur a proposé un peu de dire, il faut qu'on soit sûr. Nous voulons une élection transparente. Alors, nous n'avons pas de moyens. Et vous voulez qu'on organise une élection transparente quand les observateurs maximum même. Et maintenant, on veut nous faire comprendre que l'Église n'a pas d'avis.
Non, oui, Pelé. Il y a des observateurs nationaux. Là, c'est ce sujet que nous venons alors de débattre, c'est, ça concerne l'Église catholique. Il y a le CACIT qui va envoyer, il y a la CENI également qui envoie des observateurs.
On connaît tous ces gens de personnes, tous ces gens de choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit entre l'Église catholique? S'il n'y a pas la crédibilité, c'est au niveau de l'Église catholique. Quand ils ont voulu de l'argent, ils ne peuvent pas. C'est là où je comprends. Nous voulons une élection transparente.
D'accord.
Le président est un grand parti qui gagne toutes les élections.
Et
maintenant, laissez la liberté d'expression à tous les Togolais.
Ok, merci beaucoup, Pelé. 22-21-33-114. Allô? Bonjour.
Allô?
Oui, allô, bonjour. Allô?
Allô?
Allô, bonjour. Je vous écoute. Bonjour.
Allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour. 22-21-33-114. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom, c'est...
Le plateau.
Pardon?
Votre plateau.
Ah, décidément, j'ai du mal à vous écouter.
Votre plateau.
Votre radio fait du bruit à côté de vous, s'il vous plaît. Diminuez un peu le volume.
C'est bon?
Oui, c'est bon. Votre nom, c'est...
Allô? Allô?
Allô, votre nom, oui.
Mohamed.
Mohamed.
Donc, moi, je suis tôt.
Ah, mais décidément, j'ai du mal à vous écouter.
Vous dites ce beau sito.
Ce beau sito, allez-y, oui, allez-y.
Vous parlez de l'Église catholique. Hier, j'ai suivi sur une chaîne internationale, le prêtre à l'Oignon, ou bien qui est.
Oui, Benoît, alors nous.
Il n'a pas demandé l'accréditation, mais il entend partout que l'Église a demandé. Je n'ai pas compris.
Pardon? Ok, 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Monsieur Comblant du lycée.
Monsieur Comblant, vous nous appelez depuis le lycée, allez-y.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que à Blita, par exemple, on a 160 000 habitants qui vont voter. Mais ils ont droit à voter pour 4 députés. À Sévier, on a 500 000 habitants. Eux aussi, ils ont à voter pour 4 députés seulement. Donc l'élection est faussée d'avance. Donc les députés là qu'on va nommer à Blita, là, qu'on va voter, on va les voter à Blita là. Ce sont des, on va les appeler comment, des députés payants. Ou bien comment? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on parle de transparence? C'est déjà faussé à la base, mes amis. Il n'y a pas de transparence. Et puis, on nous dit que ce sont ces députés qui vont voter pour le président du conseil des ministres. C'est pas normal. C'est voté. Donc, normalement, c'est une personne, une voix pour les élections présidentielles. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? On ne trouve pas ça normal. Regardez tout ce qui se passe au Togo, là. Les inondations, tout ça, tout ça. Après plus de 60 ans de régime RPT unir. Et puis on va leur voter encore.
D'accord, merci beaucoup et bonne journée. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Basile.
Oui, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Salut, Michel. Ambroise aussi est là-bas?
Oui, oui,
je pense que vous avez parlé d'Ambroise. Je ne vous ai pas suivi en cours du débat. Bon, vous avez parlé de l'Église catholique, son affaire là. Non, c'est simple à comprendre. Le pouvoir ne veut pas qu'on voit. Moi, je parle, j'étais superviseur dans des bureaux de bout. Donc, quand il n'est pas question que quelqu'un vienne raconter sa vie. Le pouvoir ne veut pas voir comment l'élection se passe dans les bureaux de vote. À partir de 16 heures, comment ça se passe. Donc, L'année 2020, il avait refusé les 1000 et quelques observateurs comme ça aussi. Mais il ne veut seulement tout comme ça. Je vais vous raconter cette anecdote-là.
Oui, vas-y, rapidement.
Madame Mme, qui court tous les médias, nana, on lui a demandé une hier, quelle heure, le bulletin. Elle ne sait pas. C'est hier qu'elle a pu, comment on l'a coincé comme ça dans une autre émission. C'est hier qu'elle a pu dire ça. Vous voyez, elle prend cette campagne-là, c'est de fiction. L'élection, mais qui est avant. Mais je vous remercie.
D'accord, merci à toi aussi, Basile. 22 21 33 114. Allô, bonjour. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez? Allô. Allô.
Bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue. Votre nom?
Oui, c'est Waris.
Waris, depuis Azam.
Effectivement.
Allez-y.
Bon, je pense aussi que on doit pouvoir autoriser, si possible, si je ne leur reproche rien, l'Église catholique de pouvoir mener tout ce qu'il.
Allô? Allô? Mais décidément, Waris n'est plus en ligne. 22 21 33 114 91 36 63 75.
Allô?
Oui,
allô?
Oui, bonjour. Allô?
Cossi de Sabado.
Oui, Cossi de Sabado. Allez-y, Cossi.
Salut le plateau.
Oui, salut.
Il y a des problèmes. Il y a des problèmes.
Ah, bon, monsieur...
moi, je vous dis.
Monsieur Cossi. Allô, monsieur Cossi. Allô. Décidément, nous avons de la peine à écouter monsieur Cossi. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
Oui, votre nom c'est.
C'est Sylvain.
Oui, Sylvain.
Je salue les autres confrères aussi. Bon, pour ce qui concerne le rejet de la demande de l'Église catholique. Il y a un président qui vient de l'Église, c'est la mauvaise foi.
Sylvain.
Si vous parlez de.
Oui, Sylvain. Sylvain.
Oui.
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Diminuez le volume.
D'accord. Si les autorités parlent des élections transparentes cette fois-ci, pourquoi toute cette condition? Les gens veulent observer les élections vous savez pourquoi les Togolais sont fatigués de voter. Parce que leur droit de vote est violé. Ils ne respectent pas ce que nous on met dans les urnes. C'est pourquoi les Togolais sont fatigués de voter. Pour qu'il y ait transparence, il faut que des gens soient là pour vérifier ce que les Togolais mettent dans les urnes. C'est la bonne, c'est la mauvaise foi des autorités de refuser la demande de l'Église catholique. Il faut que les jeux soient transparents et puis on y va. Ça, c'est la mauvaise foi. Et puis, les jeux sont déjà faits. C'est pourquoi ils ne veulent pas, c'est tout. Les résultats sont préfabriqués. C'est pourquoi ils ne veulent plus.
D'accord, merci beaucoup Sylvain. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Nestor, allez-y.
Oui, le fait que la série est refusée, ses observateurs ne disent pas raison à l'opposition, c'est parce que les RPC, puisque les partenaires en développement, les accompagnent dans les organisations, qu'elles disent que les élections sont au Togo. Merci.
Merci, Nestor. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Non, décidément, il est parti. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom?
C'est M. Cossi de Savoie, qui est revenu.
Oui, Cossi, M. Cossi, allez-y.
Oui, je voudrais dire que si le comment l'appelle-t-on, la CENIA a refusé la surveillance des élections par l'Église catholique, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, parce que les jeux sont déjà faits par avance. Ils ont déjà truqué les élections là. De deux, moi je veux dire que ça ne rend pas crédible notre pouvoir même. Tout ça là, à l'extérieur, ça ne sonne pas bien. Les gens parlent mal de nous. Quand vous captez les radios, les chaînes internationales, ce qu'on dit sur nous, vraiment, c'est déplorable. Il faut que notre gouvernement arrive à se ressaisir. Les élections, c'est quoi? Ils ont le pouvoir depuis. Qu'est-ce qu'ils en font? Merci.
Merci beaucoup, M. Kossi. 22 21 33 74 91 36 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Votre nom?
Arma.
Arma. Allez-y.
On dit que la CENI refuse, mais est-ce que la CENI refuse? On a des critères, non? Ou bien, si ceux qui ont été éligibles et qu'ils ont respecté un temps soit peu les critères. Donc aujourd'hui, les gens parlent comme si. Et puis, il faut avoir. J'espère que beaucoup n'ont pas la mémoire courte. Parce que en 2020, c'était la même histoire aussi. Pourquoi l'Église catholique ne peut pas se conformer aux règles? Tu veux venir dans ma maison pour superviser quelque chose, je te donne mes critères. Maintenant, tu dis non. Et si tu dis non, je te mets à la porte. C'est tout. Merci.
Merci beaucoup, Armin. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, vas-y, reviens.
Oui, Basile.
Oh, mais pour renchérir, est-ce que l'Église catholique doit aller cibler ces élections pour frauder ça? Voilà, je comprends que c'est vraiment très bizarre quand on parle de ça. Quoi. Est-ce que l'Église catholique doit aller cibler les élections pour pouvoir les frauder? Non, c'est que l'Église veut cibler ça pour qu'on ne fraude pas. La bonne foi veut être où? C'est ce qu'on va comprendre. Vous dites que vous gagnez les élections, on veut voir. Vous dites que non. Mais comment on peut expliquer ça?
D'accord. Alors. Merci, Basile. 22 21 33 114, nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô? 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Allez-y.
Oui. Les gens disent que c'était la même chose en 2020. Moi, selon mes analyses, c'était faux. Parce qu'on avait montré le drapeau togolais à Bohème Kodjo dans une église catholique. On dit que l'église catholique se mêle à la chose politique. C'était le critère qui avait frappé l'église catholique en 2020. Maintenant, en 2024, mais ils disent que c'est le financement. Parce que l'église catholique a essayé de faire une demande pour voir le clergé. Les gens refusaient. Comme Jésus devait aller sur Yassé, au moins Yassé l'a accueilli, il a reçu. Et Yassé a transformé son cœur. Vous voyez, Satan se retrouve dans des petites choses, quoi. Vous voyez, quand on peut illustrer Satan, les gens pensent que ce sont les amulettes qui sont Satan. Hein. Non. Donc la bonne foi, tu n'es pas sataniste, mais que tu n'as pas la bonne foi, on appelle ça bobovoin. Quand tu es animé d'esprit pour faire du mal, c'est là qu'on dit que le Satan est en toi, quoi. Donc, mais si c'est du bien, continuons. Mais je sais que, ils savent la position, l'Église catholique voudrait la transparence. Et l'Église catholique se trouve partout, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, dans les contrées, même à Diatanga. L'Église catholique est là-bas pour pouvoir superviser correctement les élections.
D'accord.
C'est pourquoi ils ont peur de l'Église catholique, parce que les élections seront très, très transparentes. Vous voyez comment les chefs traditionnels même disent aux gens de ne pas faire campagne. Et à l'intérieur, ça boude, hein, même s'il y a 4 sièges à Brita, ça boude là-bas. Là, c'est actuellement que les gens ont commencé par réceptionner certains groupes dans les villages pour faire une petite crédibilité, mais c'est trop tard. Unir ses forces inutilement, malgré qu'il a de l'argent, Même si Dieu était corrigible, ils allaient sur le ciel pour faire la campagne, mais ça ne peut pas aller cette fois.
D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup, Niamavo. Niamavo, c'est le dernier auditeur hein, pour la réaction téléphonique ou les manifestations téléphoniques. Alors, pour le compte de cette émission de ce jeudi, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission. Michel, vous avez écouté les uns et les autres. C'est quoi l'appréciation que vous faites ou quelle est votre observation?
Non, les gens, les auditeurs, comme d'habitude, donnent leur point de vue. On n'a pas commenté forcément sur leur opinion. Seulement, ce qui intéresse les Togolais, c'est le climat de paix et de sécurité et qui doivent entourer ce scrutin-là. Et nous sommes à quelques jours de la fin de la campagne. Il faut qu'on aille voter tranquillement dans la discipline le 29 et qu'on espère aussi dans cette même discipline les résultats. Je pense que si on arrive à le faire, ça montre à l'opinion internationale que les Togolais sont en train d'avancer sans se cogner dessus, sans se crier dessus. C'est dans ce climat-là que le Togo peut avancer ou amorcer véritablement sa voie de développement. Sinon, l'appareil ne sert à personne.
D'accord. Et là,
je crois quand même que il y a un problème qui ne dit pas son nom entre l'Église catholique et les autorités. Il va falloir que les deux entités puissent véritablement s'asseoir pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que de la façon dont ça se passe, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des prières, des messes, etc., on va à l'Église, mais quand l'Église exprime un besoin, on dit non. Il va falloir que les deux entités puissent s'asseoir pour véritablement discuter. Le problème, c'est que on ne peut pas aujourd'hui dire l'Église ne peut pas fermer ses portes. L'Église accueille tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Mais si de l'autre côté, les gens émettent des besoins et qu'on ne s'asseye pas pour pouvoir écouter l'autre, même si vous devriez, dans une certaine mesure, sortir des dispositions ou prendre des mesures qui doivent quand même permettre à ce que les gens ne puissent pas être dérangés dans l'action que vous voulez poser, mais essayez quand même de discuter pour voir ce qu'il y a comme problème. Mais le fait de tout le temps dire non, 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 je crois quand même qu'à un moment donné, ça va finir par faire comme si véritablement on cachait quelque chose. Alors que le dialogue et la concertation sont toujours des solutions qu'il faut privilégier dans des situations du genre.
D'accord. Jean Legrand pour les Rini.
Oui, je vais embrayer dans le même sens que l'homme. Parce qu'on a comme l'impression qu'on veut, on voudrait que l'Église soit cantonnée dans uniquement son rôle religieux. Depuis la prise de position du prélat, Père Sonna, Monseigneur Poduro, on sent qu'il y a un fossé qui s'est créé aujourd'hui entre l'Église catholique et les autorités togolaises. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et pour résoudre ce problème, il va falloir que les gens aillent véritablement discuter, parce que ça n'arrange personne. Voilà. Et moi, je vais rappeler ce visuel du Hachkoun qui appelle à la paix et à la réconciliation, qui dit « Notre véritable force réside dans notre capacité à nous écouter les uns les autres. C'est une institution de l'État qui dit ça. Donc, que nous ayons discuté. En définitive, j'invite les Togolais à aller voter le 29 lundi dans la paix. Que chacun fasse son vote en âme et conscience, et qu'il vote la personne qu'il trouvera utile, qui pourra répondre à son assentiment. Nous parlons de la paix. La paix ne doit pas être un mot, mais la paix doit être un comportement.
Voilà.
Au niveau des acteurs politiques et au niveau des populations. Après le vote, que chacun, les observateurs, les représentants des partis, puissent véritablement exercer leur rôle pour qu'après, on n'entende pas quelqu'un venir dire « On nous a volé, on nous a volé. »
D'accord.
On ne veut plus entendre ça. Vous avez des représentants, faites votre travail.
Merci
dans
beaucoup, Jean. Ambroise ?
Oui, moi, j'ai deux choses, c'est-à-dire par rapport à l'Église. Je crois que j'ai peur que demain, les gens aient honte d'aller maintenant dans l'Église, parce qu'ils n'auront pas peur des curés, mais des fidèles à côté de qui ils sont assis. Est-ce que vous me suivez ? Peut-être que c'est l'Église d'Adjao qui va bientôt, prochainement, accueillir les gens du pouvoir. Je ne sais pas. Parce qu'on a déjà étiqueté les églises protestantes et méthodistes par rapport à leur sortie. Donc finalement, le pouvoir va fuir toutes les églises et se réfugier. C'est Bon, je ne sais pas. Maintenant, dans notre parution d'aujourd'hui, par rapport à tout ça, pour un folklore de tout, folklore de tout ça, nous avons publié une tribune qui est une exhortation, une prière en titrant « Révocation de la malédiction sur le Togo ». On parle du 27 avril, en fait. C'est l'évangéliste et journaliste Habib Bakt Afolabi qui appelle l'Église, on vient de parler de l'Église, et le peuple a intensifié la prière pour exorciser le Togo. Parce que selon lui, le Togo est miné par une malédiction. On a fait le culte de la personnalité Aya Dema dans ce pays, et ça continue. Et donc, il n'a pas dit ça. Lui, quand tu vois, c'est un texte très long, mais quand vous lisez, c'est des paroles bibliques qui sont là pour demander à l'Église, on parle d'Église, toute l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ.
D'accord.
Toutes les églises, pentecôtistes, baptistes, protestantes, catholiques, de prier. Les pasteurs n'ont qu'à prier. Le peuple, chaque soir, vous voulez dormir, priez pour le Togo.
D'accord. Merci
beaucoup. Il faut prier pour le Togo pour délivrer le Togo.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise, d'être passé dans cette émission. Merci à Michel Tzadza d'être passé aussi dans cette émission. Et l'homme, merci à toi. Jean Le Grand Polérini, merci à toi. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.